Voilà, merci beaucoup et je tiens d'abord à remercier les éditions Jésuites, l'UOPC, les organisateurs de cette soirée de m'avoir invité. Je remercie aussi chaleureusement le père Charles Delay pour m'avoir proposé d'écrire ce volume et de m'avoir souvent poursuivi vu mon caractère un peu namurois, et je l'en remercie. Je voudrais dire aussi d'entrée de jeu que je ne suis pas un expert dans la technique de l'intelligence artificielle ni dans la robotique, mais j'ai été amené à me poser une série de questions et entrer dans le débat des questions éthiques et parfois aussi juridiques liées à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a à peu près 6 ans, un groupe de philosophes catholiques qui donnait des enseignements dans des écoles militaires françaises m'avait demandé de participer avec eux à une réflexion en profondeur sur les enjeux éthiques de l'introduction progressive de robots autonomes armés dans le champ de la sécurité et de la défense, disant qu'un certain nombre d'acteurs étaient démunis et n'avaient pas d'outils pour poser les bonnes questions. Petit à petit, par le biais de la mission française donc à la conférence sur les armes conventionnelles à l'ONU, puis la mission belge, puis finalement la mission du Saint-Siège, j'ai été petit à petit engagé dans des discussions sur l'impact anthropologique et éthique de l'introduction de ces robots et de techniques d'intelligence artificielle dans le champ des nouveaux conflits actuels. Et c'est comme cela, c'est ce qui m'a décidé à finalement accepter l'invitation d'écrire ce texte en introduisant ça et là peut-être quelques petits éléments des questions et de ce qu'on m'avait appris dans les instances internationales. Alors, comme le père Delay l'a dit en commençant, en fait, la société a changé, notre société a changé et change très rapidement, et on ne peut pas, d'une certaine manière, poser des questions à propos de nouvelles technologies sans en fait montrer les liens qui unissent ces nouvelles technologies et la société, en mettant en évidence une sorte de boucle de rétroaction qui essentiellement pourrait être décrite entre une société d'un certain type appelle des outils technologiques particuliers, mais ces outils technologiques à leur tour façonnent une société et renforcent d'une certaine manière l'appel technologique. Donc il y a d'abord à réfléchir sur quelles sont ces sociétés qui ont fait naître l'intelligence artificielle et la robotique et une robotisation de plus en plus grande de notre société. En fait, un premier point que nous pourrions relever, c'est que nous vivons dans une société de plus en plus complexe. Complexité de réseaux de communication, de distribution d'énergie et de biens, complexité aussi de la bureaucratie, complexité de la justice. Cette complexité demande donc une surveillance de tous les instants, et qui est impossible à réaliser par les seuls moyens humains, mais qui est tout à fait nécessaire, surveillance qui est tout à fait nécessaire pour garantir une sécurité dans le cadre de ces réseaux complexes qui peuvent dysfonctionner à tout moment. Et les systèmes d'intelligence artificielle, justement aujourd'hui, sont souvent dédiés à une surveillance et au maintien d'une sécurité dans les différents réseaux dont je viens de parler. La complexité elle-même est liée à une grande interdépendance et à une globalisation. On a de plus en plus d'acteurs qui sont en connexion. Autrefois, les sociétés étaient locales, avec des connexions de temps à autre, avec des sites lointains. Maintenant, la société est hautement interconnectée physiquement et par les réseaux de communication. Et on sait que dans des systèmes d'acteurs hautement connectés, on peut avoir des comportements émergents qui sont complexes et parfois imprévisibles. Donc, les systèmes d'acteurs simples, interconnectés, peuvent donner lieu à des phénomènes d'émergence imprévisibles, d'où la nécessité de suivre en temps réel ce qui se passe dans ces réseaux interconnectés. La société est aussi une société du traitement et de l'échange de l'information. Vous la vivez en continu avec les iPhones, avec les tablettes, etc. Et traitement de l'information et d'échange en quantité tellement monstrueuse que l'humain ne peut plus suivre, et il délègue à des machines le soin de traiter l'information, et éventuellement de reconnaître celles qui pourraient intéresser tel et tel secteur de la société. La complexité de notre société va de pair aussi avec la rapidité. Nous sommes dans une société malade de la vitesse, j'oserais dire. On parle de rapidification des processus. Notre société est marquée par la rapidité. Vous devez répondre en temps réel au message que vous recevez. Et si vous n'avez pas répondu à un email dans les 30 minutes qui suivent, vous recevrez peut-être un coup de téléphone, technologie dépassée, mais toujours utile pour rappeler aux autres d'utiliser la technologie un peu plus sophistiquée. L'humain ne peut plus suivre le rythme et il doit donc déléguer à des machines. Doit déléguer aussi des tâches difficiles. Nous avons dans la société des tâches difficiles à accomplir. En médecine, détection de pathologies, détection de régularités de patterns dans le génome qui est séquencé, détection dans des signaux de problèmes liés à la sécurité, etc. Nous sommes de plus en plus rapides, mais nous ne pouvons pas suivre. Donc, nous devons nécessairement déléguer à des machines qui vont plus vite que nous. La société va vite, mais elle est aussi une société de l'optimisation. Optimisation qui va souvent de pair avec une philosophie implicitement utilitariste. Il faut maximiser le bien-être, minimiser le mal-être. Il faut optimiser les rendements, les profits, les structures, produire plus, trouver plus, mais en dépensant de moins en moins. Donc, mettre au point de nouveaux médicaments de plus en plus rapidement, mais la mise au point des médicaments et la longueur des processus aussi demande des fonds. Et un des pères de l'intelligence artificielle, Schmidt-Huber, à Lugano, un des pères de l'intelligence artificielle, faisait remarquer que maintenant l'intelligence artificielle permet des gains énormes dans la mise au point de nouveaux médicaments. Par justement, les systèmes d'intelligence artificielle apprennent des tas et des tas de manières de faire un certain nombre de réactions chimiques et permettent d'identifier assez rapidement des réactions optimales, des effets qu'on n'aurait pas pu remarquer simplement par des méthodes d'observation humaine, etc. L'intelligence artificielle est au service d'une société qui veut à tout moment optimiser. Et cette optimisation, elle va aussi de pair avec une évaluation permanente. Nous sommes dans une société complexe, interconnectée, au processus rapide, avec des exigences d'optimisation, mais nous sommes aussi, si vous êtes un peu observateur, dans une société de l'évaluation permanente. Évaluation permanente des employés dans les sociétés, des professeurs dans les universités, l'obsession du ranking, des performances, la prise en compte de la comparaison des quantifications des performances professionnelles pour susciter, des performances nouvelles, des outils de récolte données qui vont, d'une certaine manière, scruter les CV, analyser les caractéristiques des différents travaux effectués par les ouvriers ou les employés. Et cette société de l'évaluation permanente demande des outils d'évaluation. Il faut qu'en temps réel, on puisse suivre votre profil, le qualifier, éventuellement vous envoyer une sorte de stimulation pour que vous produisiez plus ou travailliez mieux. Dans le monde académique, je me suis rendu compte que, sans même l'avoir demandé, des robots électroniques suivent en temps réel ce que je fais. Et m'envoie, alors que je ne l'ai jamais demandé, mais peut-être ma seule erreur est d'avoir fait comme tout le monde un jour, étant fasciné par l'intérêt pour un article purement scientifique, j'avais cliqué sur l'acceptation de certaines choses qui ont entraîné, mon appartenance à un réseau de recherche, tout à fait bien, mais qui vous envoie chaque semaine votre bilan de productivité et vous signale aussi que dans le département, cette semaine-ci, vous avez été un peu moins performant que tel collègue qui est aussi sur le réseau, mais qui a publié un article de plus dans telle revue. Donc ça, c'est quotidien, mais comment faire ça ? Jamais un être humain dans une administration ne pourraient faire cela, je veux dire, suivre les carrières de chaque scientifique, etc., et puis leur envoyer ce genre de message en vous mettant en plus la carte de vos collaborations en temps réel et rendant public cela. C'est-à-dire que chaque fois que vous écrivez un article, eh bien, on sait que vous avez écrit un article avec quelqu'un de tel pays. Et donc, on voit tout de suite avec quel continent vous travaillez. Hein, si vous ne travaillez jamais avec les États-Unis, ou si vous avez une propension à travailler plutôt avec les pays en voie de développement, etc., ceci est vu en temps réel et rendu public dans les réseaux très largement. Qui pourrait faire ça? Mais pas des personnes humaines, ce sont des robots électroniques qui font ça automatiquement. Robots électroniques qui d'ailleurs, vous le savez, vous envoient des publicités, en plus pour des choses qui vous intéressent très bien, parce qu'elles ont remarqué effectivement que vous alliez souvent sur tel et tel site, et donc que vous devez être un lecteur des éditions Fidélité, et donc vous envoie automatiquement des publicités. Mais ça, ça peut être évidemment très bien, je n'ai rien contre évidemment, mais ça va poser quelques questions. Notre société donc aussi travaille dans des situations de plus en plus, on pourrait dire, dangereuses pour l'homme, effectue des travaux de plus en plus délicats. Il suffit de penser à la recherche spatiale, pensons au robot Curiosity sur Mars. Il vaut mieux que ce soit un robot qui travaille sur Mars qu'un être humain, bien entendu. Réparation des centrales nucléaires, il y a des robots plus ou moins autonomes qui travaillent sur les sites pollués, Tchernobyl, Fukushima, etc. Mais on peut penser aussi aux robots qui effectuent des tâches délicates, par exemple en neurochirurgie, etc. Donc nous faisons des tâches de plus en plus complexes, et l'humain ayant des limites, nous devons l'assister par de plus en plus de machines. Alors du point de vue de la guerre, les conflits ont fortement changé, et la nature des conflits a fortement changé. Nous faisons de plus en plus en Occident la guerre à distance, et nous supportons de moins en moins les pertes en vie humaine, à tel point que la guerre est devenue quelque chose qui est, dans le fond, mise à distance et parfois oubliée. Je me souviens avoir posé la question, et avoir entendu poser la question dans des amphithéâtres universitaires, aux étudiants, demandant est-ce que la France est en guerre, est-ce que la Belgique est en guerre, etc. Que fait-on ? Personne ne sachant quel est le degré d'engagement de l'armée française ou belge ou de l'OTAN sur des champs d'opérations extérieures. Nous ne sommes plus au contact direct des opérations, et nous ne supportons pas nous engager massivement au point de vue humain. Donc nous devons faire la guerre à distance, donc nous devons utiliser des machines qui font la guerre à notre place et qui évitent des victimes, évidemment, dans notre camp. Puisque la question se pose de savoir si elle n'en provoque pas dans l'autre camp et à quel degré. Mais nous sommes habitués à faire la guerre au loin, à téléopérer des choses. Ce n'est pas nouveau. L'art de la guerre a toujours été de développer des protections et de faire la guerre à distance pour ne pas être touché. Mais ici, de plus en plus, les moyens de combat s'autonomisent. Et d'une certaine manière, non seulement la robotique est entrée dans cette manière de faire la guerre, mais nous faisons la guerre de façon de plus en plus discrète, ce qui permet au niveau de l'engagement peut-être de ne pas être repéré. Et l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de faire des opérations sans que l'on identifie exactement d'où elles viennent. Si vous avez une cyberattaque sur un certain nombre d'installations, c'est très difficile d'identifier d'où viennent les cyberattaques. On se doute que ça vient de gens, par exemple, qui ont des capacités technologiques très, très fortes, mais il est plus facile de faire des attaques avec des moyens, on pourrait dire, d'intelligence artificielle, que d'aller attaquer directement des infrastructures en les bombardant par des moyens conventionnels. Donc aujourd'hui, les cyberconflits, les cyberattaques, la cyberdéfense est devenue un enjeu majeur, à tel point que l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève a commencé une réflexion de fond, puisque l'observateur permanent du Saint-Siège est membre de la de la Convention sur les armes classiques, eh bien, a décidé de commencer une réflexion de fond sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Et donc, aujourd'hui, on pense à l'intelligence artificielle pour se prémunir contre des cyberattaques qui peuvent faire plus de victimes que les attaques conventionnelles. Si vous dérégulez le système informatique d'un hôpital, d'un barrage, d'une centrale nucléaire, vous pouvez faire beaucoup plus de victimes qu'avec un bombardement classique. Vous pouvez déréguler la société beaucoup plus profondément. Et bien entendu, vous avez entendu l'utilisation des moyens d'intelligence artificielle pour perturber des élections. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui... les cyberconflits, c'est aussi la perturbation des démocraties par des cyberattaques. Et il faut en être conscient. Et ça pose des tas de questions, puisque la société change, le type de conflit change. Mais l'infrastructure ou la structure de nos corpus légaux ne suivent pas nécessairement. Par exemple, pour les juristes aujourd'hui, c'est un problème de savoir qu'est-ce que ça veut dire une déclaration de guerre dans le cadre d'une cyberattaque. La reconnaissance, la distinction entre les combattants et les non-combattants dans le contexte de cyber-conflit, comment définir un cyber-conflit, etc. Toutes les définitions doivent être revisitées. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Alors on pourrait se dire, il y a des réponses simples en disant, eh bien, on va éviter d'utiliser une série de, par exemple, de robots, les robots complètement autonomes. Et bien sûr, toute personne sensée, tout chef militaire ne voudrait pas utiliser un robot parfaitement autonome qui redéfinit lui-même ses objectifs et qui risque de se retourner contre nous. Ça, c'est tout à fait évident. Mais plus subtil est la nécessité éventuellement de se prémunir contre des attaques de haute intensité, dessein de drones eux-mêmes autonomes. Donc comment pourrait-on faire face à une attaque dessein de drones armés qui eux-mêmes ont des comportements qui sont autonomes. Donc la protection contre ces choses-là amène alors une sorte de nouvelle course aux armements, et c'est ça qui est dangereux, de contrer des attaques de drones, des essaims de drones par des essaims de drones, ou bien de riposter à des cyberattaques ou des attaques de ce genre-là par des armes conventionnelles, éventuellement des armes nucléaires de faible puissance. Donc on pose souvent la question des conflits en termes cyberattaques, attaques avec des robots, etc. Mais ce qui est dangereux aussi, c'est une reprise de la course aux armements à partir des menaces, de nouvelles menaces. Donc il faut être très attentif à ça, et les milieux diplomatiques, et en particulier le Saint-Siège, est très attentif à ce genre de choses, parce qu'on est en train aussi de perdre. La dissuasion nucléaire était quelque chose de très malheureux, mais qui a fonctionné, et dans laquelle les gens avaient confiance. Aujourd'hui, les cyberattaques, les piratages, etc., peuvent petit à petit faire perdre une confiance dans les systèmes classiques, et peuvent éventuellement induire de nouvelles formes de dissuasion ou des pertes de confiance dans les dissuasions classiques, etc. La société a changé, et la société, d'une certaine manière, suscite ou induit une sorte de demande de nouvelles technologies. Mais ce changement de société appelle une réflexion profonde, parce que on a beau invoquer des nécessités de sécurité, on a beau dire que l'homme ne peut plus faire une série de tâches, mais petit à petit, des caractéristiques profondes de l'humain se sont érodées. Les relations se sont numérisées. Et comme le disait récemment à un colloque Jean-Michel Beignet, un grand philosophe des technologies de la Sorbonne, des médiations humaines lentes, inutiles mais combien précieuses du contact humain et de la parole, sont en train de s'estomper, disait-il. Dans une société où disparaissent les guichets de gare et de banque, et beaucoup de face-à-face en chair et en os, les technologies performantes atomisent quand même les individus, qui à mesure qu'ils se connectent rapidement à leurs centaines d'amis sur les réseaux sociaux, se ferment à leurs congénères, qui sont situés à 50 cm d'eux dans un arrêt de bus. Il faut observer ce qui se passe parfois autour de nous. Les corps réels s'effacent pour laisser place à du virtuel. Alors on peut suivre avec grand plaisir un cours donné à Princeton, à Harvard, etc., à l'autre bout de la planète. Ça c'est très bien et j'en profite aussi, rassurez-vous, hein, je ne suis pas technophobe. Mais on ne goûtera plus un contact direct avec un orateur. Alors certains diront que seul le contenu compte, mais est-ce bien vrai, hein? Que retient-on de nos professeurs, après tout? Les contenus techniques qu'ils nous ont enseignés, peut-être certains, mais souvent c'est l'enthousiasme communicatif d'un enseignant, ce sont ses exotismes, ou bien c'est les choses qu'il faisait que d'autres ne faisaient pas et qui nous apprenaient à penser et à vivre. Qui dirait que ces choses-là n'étaient pas aussi importantes? Alors, cela, bien entendu, et je le souligne, n'efface pas du tout l'intérêt et le caractère indubitablement positif des technologies. Moi, je pense qu'une société doit développer des outils technologiques. Et il y a des aspects indubitablement très positif de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Par exemple, qui pourrait prétendre que les exosquelettes, et en particulier celui qui a été développé récemment à l'université de Grenoble et qui permet de redonner le mouvement à des personnes porteuses d'un handicap, qui pourrait dire que ce n'est pas vraiment un progrès dans l'humanisation de nos sociétés? Moi, je crois que oui, c'est un progrès de ce genre-là doit être valorisé parce qu'il permet de retrouver une qualité de vie. On doit reconnaître aussi le caractère extrêmement positif de l'intelligence artificielle en médecine. Hein, on cite souvent aujourd'hui l'exemple de la reconnaissance de mélanomes par des systèmes de réseaux neuronaux formels qui reconnaissent mieux que l'œil des médecins ce genre de pathologie. Donc on pourrait dire aujourd'hui, revenir en arrière, se priver de ces technologies serait une régression et la technophobie est une sorte de régression. Je pense par exemple qu'aujourd'hui on n'en est qu'au début d'une grande révolution dans le monde médical en particulier. J'étais frappé de voir que en Angleterre et aux États-Unis on a développé des assistants vocaux qui sont connectés à des stéthoscopes intelligents qui détectent le fonctionnement, les signaux venant du cœur et des poumons. Ces systèmes sont géolocalisés, comme ça en temps réel ils peuvent voir si le patient se trouve dans des zones qui sont polluées ou remplies d'allergènes, etc. Ces systèmes sont éventuellement couplés à des capteurs physiologiques qui contrôlent les paramètres vitaux et cet assistant vocal est capable de lancer un message d'alerte pour avertir les services de secours, ce qui peut être une façon moderne de faire de la télévigilance, de la télédétection, et pour cela, ça peut être un bien précieux pour les personnes isolées, pour les malades, les personnes âgées, quand on pense qu'à Paris, il y a encore quelque temps, une dame a accouché toute seule dans sa chambre parce que personne n'avait prévenu qu'il y avait une patiente qui était arrivée dans un service, un système de télévigilance dans des smart rooms, dans des chambres intelligentes qui font de la détection en temps réel, aurait pu prévenir le service en temps réel. Donc, cela, il faut prendre acte de ces aspects positifs, tout en réfléchissant, bien sûr, aussi aux disparités économiques que ça peut induire. Hein, parce que qui aura accès à cette technologie sophistiquée de haut niveau, quelle population pourra y avoir accès, etc. Bon. Alors, le couplage entre les systèmes d'intelligence artificielle et les robots est aussi au cœur de la chirurgie. Si on regarde, par exemple, en chirurgie orthopédique, le calcul de placement optimaux de prothèses, le calcul en neurochirurgie, le calcul de trajectoire les plus sûres pour une intervention dans le cerveau, la simulation d'opérations pour être sûr de faire alors en réel les gestes qu'il faut, le contrôle et le guidage des gestes chirurgicaux dans des robots semi-automatisés comme Da Vinci par exemple, hein, des progrès pour le bien des patients sont attendus et tant mieux. Bon. Dans le domaine de l'aviation aussi, les compagnies aériennes traitent des quantités énormes de données de vol pour optimiser la maintenance et pour prévenir des pannes qui coûtent très cher et qui peuvent être coûteuses en vie. Donc des systèmes robotisés pourraient sauver des vies. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de système, j'avais l'idée que des robots autonomes peut-être seraient dangereux pour l'être humain, parce que des robots autonomes agiraient sans décision humaine et donc pourraient se retourner contre l'être humain. Et un peu après, je me souviens, a eu lieu le crash de la Germanwings, de l'avion de la Germanwings, et certains ont dit, oui mais enfin, si l'avion avait été doté d'un système de robotisé autonome qui détecte des mouvements aberrants du pilote, il aurait pu, de façon autonome, interdire le pilotage humain, reprendre la main et sauver les personnes. Maintenant, le tout, il existe des cas dans lesquels, effectivement, le système automatisé prend des décisions aberrantes que le pilote peut contrecarrer en interdisant le fonctionnement du pilotage automatique. Donc, en fait, le problème en fait, n'est pas l'autonomie des robots contre l'humain. Le problème est plutôt, de plus en plus, comment gérer le partage d'autorité entre l'homme et la machine. Catherine Tessier à Toulouse, une grande spécialiste de la robotique, disait le problème aujourd'hui est un problème justement de la gestion du partage d'autorité entre l'homme et la machine. Dans certains cas, il vaut mieux que la machine ait la main. Par exemple, si dans des robots neurochirurgicaux qui contrôlent les mouvements d'un chirurgien, il vaut mieux que des machines contrôlent des mouvements qui éventuellement seraient dangereux, les corrigent. Bon. Mais dans certains cas, il vaut mieux que le chirurgien soit à côté de la machine et puisse reprendre la main en cas d'hémorragie ou bien en cas de problème que la machine ne verrait pas, mais que le chirurgien, avec son expérience, pourrait résoudre assez rapidement. Donc, comment gérer cela? Et un des problèmes éthiques majeurs aujourd'hui, c'est comment définir des critères éthiques et comment, sur base d'une réflexion anthropologique, gérer ce lien entre l'homme et la machine, entre l'homme et l'outil. Alors on pourrait dire que c'est un problème classique, mais en fait, le problème a été complexifié par l'autonomie des machines et aussi peut-être par la fascination que nous avons pour les machines et qui fait que, au plus elles sont performantes, au plus nous avons tendance à abandonner nos pouvoirs de décision à des systèmes technologiques. Et ça, c'est un des risques majeurs aujourd'hui. Donc, une prudence s'impose, si vous voulez. Une prudence s'impose. Ne pas être technophobe ne veut pas dire, évidemment, être technolâtre ou bien s'aplatir devant de nouveaux idoles que seraient les machines. Non. Il faut d'abord réfléchir, et je le disais, sur des fractures économiques qui peuvent apparaître dans ces nouveaux mondes technologisés. Les données recueillies en permanence sur nous, puisque nous sommes les producteurs consentants de données. Vos iPhones, dès que vous ouvrez vos iPhones, dès que vous ouvrez votre ordinateur, et même quand ils ne sont pas ouverts, ils sont géolocalisés. On peut vous suivre, on peut avoir accès à des tas de données. Où vivez-vous? Quelles sont vos fréquentations? Quels sont les produits que vous achetez dans un supermarché? Quels sont éventuellement les produits que vous achetez dans une pharmacie? Et donc, quelles sont les maladies qui vous touchent? Où faites-vous des voyages? Qui rencontrez-vous? Etc. Et vous donnez des données de façon, on pourrait dire, semi-consentant ou consentant, puisque moi-même, je clique sur des choses et me voilà embarqué dans un réseau, donnant des tas de données personnelles à un réseau sans pratiquement le savoir, alors que je suis censé faire une réflexion critique sur les nouvelles technologies, mais je suis moi-même aussi victime consentante que la plupart des gens. D'ailleurs, ça me fait réfléchir. Donc, on recueille des données sur vous, et en fonction des données qu'on a recueillies sur vous, on va d'une certaine manière vous influencer et vous allez avoir tel comportement, vous allez donc produire tel type de données qui vont être recueillies, etc. Donc une boucle va renforcer un certain nombre de biais qui existent dans la société. Mais les fractures vont s'intensifier. Les fractures numériques, ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès aux technologies de pointe sont de plus en plus marginalisées. Vous n'existez pas si vous n'avez pas pu vous connecter à tel type de réseau, à tel point que j'ai rencontré dans le cadre de ATD Carmont des personnes qui finalement me disaient, mais un certain nombre de personnes sont maintenant des complètement marginalisées parce qu'ils n'ont plus accès à un réseau pour faire des demandes d'emploi, puisque vous ne pouvez plus envoyer un CV. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, un étranger qui s'était présenté pour un emploi en donnant un CV papier, parce qu'il n'avait pas pu scanner le CV. Et on lui a dit, ah ben non, mais c'est impossible, il faut passer par le réseau. Oui, mais c'est vous qui traitez le dossier. Oui, oui, c'est moi qui traite le dossier, mais ça doit passer par le réseau. Oui, mais si je vous le donne et vous scannez, non, ça c'est pas la procédure. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de cela, et de plus en plus, des gens sont marginalisés parce qu'ils n'aiment pas cette médiation ou parce qu'ils n'ont pas accès. Problème supplémentaire est lié à la récolte de données. Je disais, nous sommes les producteurs consentants de données. Et le respect de la vie privée est aussi en jeu, si vous voulez. Hein. Ma vie privée existe de moins en moins. Heureusement, l'Europe a mis en place le règlement général de la protection des données, qui est beaucoup étudié dans l'université à Namur, Yves Poulet, Élise de Grave, etc. Mais il faut dire que notre vie privée en prend un fameux coup. On me citait l'autre jour l'exemple d'une maman qui avait reçu à son domicile des cadeaux pour une naissance future en disant félicitations, etc. Et la maman n'était pas du tout au courant d'une naissance future dans la famille, mais le robot électronique qui scrute le réseau avait petit à petit découvert que sa fille faisait tel type de test, achetait tel type de produit, etc. Et donc on avait conclu, corrélation n'est pas causalité, mais on avait conclu que de fait une naissance se préparait et qu'un cadeau serait peut-être le bienvenu avec une petite publicité. Donc voilà, le réseau voilà, entre dans notre vie privée et peut perturber un certain nombre de choses. Bon. Ce monde nous fascine, hein, la technologie est fascinante, mais c'est aussi quelque chose qui nous rend très vulnérables, et de plus en plus vulnérables à mesure que nous sommes fascinés par cette technologie. Bon, nous sommes vulnérables parce que ces technologies nous servent, mais imaginez une panne de courant, mes étudiants en mathématiques ne pourraient plus effectuer le moindre calcul. L'autre jour, j'aurais demandé de fermer leur machine et de faire racine de 2 à la main, et plus personne ne savait faire ça. Je veux dire, nous sommes dans un monde hautement technologique, mais aussi extrêmement vulnérable, à tel point qu'une manière de vulnérabiliser les sociétés occidentales, c'est effectivement d'utiliser des techniques qui permettraient de perturber les communications et de couper simplement le courant. Alors, nous sommes vulnérables, nous perdons au niveau de la vie privée, et on pourrait dire, oui, mais notre société a besoin de données. Hein, la recherche médicale fonctionne avec des données, et il faut fournir des données pour que la recherche avance. Le problème, c'est que c'est vrai, mais le recoupement des bases anonymisées, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne va pas donner votre nom directement, mais le recoupement entre des bases de données anonymisées permet de détecter en fait très facilement les personnes en question. Et il y a eu un très bel article dernièrement dans la lettre du FNRS, l'article de Luc Rocher, qui a montré, c'était une étude faite par des chercheurs belges qui a été publiée dans Nature Communications, qui a montré que avec des techniques mathématiques assez sophistiquées, on peut très facilement réidentifier à partir de croisements de bases anonymisées, réidentifier les personnes. Et quand on pense aujourd'hui qu'un certain nombre de centres de recherche en médecine ou d'hôpitaux revendent un certain nombre de données anonymisées à des sociétés, on peut se poser quand même des questions sur la vie privée, le respect de la vie privée. Maintenant, il y a d'autres questions qui voient le jour. La prudence s'impose parce que d'une certaine manière, vous êtes de plus en plus réduit à votre profil numérique. C'est un profil qui vous définit sur le réseau, qui colle à votre peau, et on pourrait se demander si progressivement on ne voit pas la perte de ce qui fait l'essence de l'humain, l'humain n'étant plus réduit qu'à une somme de performance. Et de performance qui, d'une certaine manière, vous colle à la peau et vous emprisonne dans un profil numérique. Ne seront retenus que les individus à profil intéressant, oui, selon les critères définis par les outils de l'intelligence artificielle. Mais que faire des personnes qui vont être hors standard, différents, des personnes qui ne sont pas aussi performantes, qui ne sont plus aussi optimales, mais qui pourtant pourraient se révéler extrêmement intéressantes dans les entreprises, dans les universités, dans notre société. Les standards vont d'une certaine manière normaliser progressivement les personnes et il y a lieu d'être prudent. Car dans notre tradition, l'humain ne se définit pas par les performances. L'individu ne se définit pas par un certain nombre de caractéristiques liées à une utilité ou à une performance, mais par l'essence même de l'humain. Hein. Mais que va-t-on faire des personnes qui ne sont pas optimales, qui ne sont pas standardisées, vous voyez, au sens de ce genre de critères? Les robots scrutent le réseau et identifient des CV intéressants. Oui, mais vous ne pourrez plus aller postuler. C'est le robot qui ira vous chercher. Et il ira vous chercher parce que vous avez un certain nombre de performances. Mais ceux qui ont l'expérience de l'engagement de personnel savent bien que ce que l'on voit sur des dossiers ne dit pas tout. Et parfois, des personnes dont on ne sait peut-être pas tout, mais se révèlent peut-être un peu plus créatives, se révèlent dans une interview un peu différente, et ça fait tout le charme et toute la différence. Oui, le réseau va niveler, va normaliser, et on sera en train de perdre ce qui fait la beauté de l'humain dans sa richesse et dans sa différence. Autre chose est la question de la transparence. De plus en plus, j'ai dit, la vie privée est envahie par les machines, mais de plus en plus, nous devenons transparents. Et parfois, c'est intéressant, parfois, la Belgique a un système qui permet, par croisement de bases de données, d'identifier avec une certaine probabilité des fraudeurs. Alors ça peut être peut-être intéressant pour éviter des fraudes, mais ça peut être embêtant aussi si des suspicions de fraude deviennent peut-être se transforment en réalité alors qu'elles n'étaient que des suspicions. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette espèce de transparence, ça permet éventuellement de détecter des injustices. Imaginons un système comme il en existe déjà d'intelligence artificielle aux États-Unis qui passe en revue une série de décisions des tribunaux en voyant, suivant le juge, s'il a été plus conciliant ou moins, etc. Ça permet éventuellement de détecter des discriminations raciales, par exemple. Bon, mais en même temps, ces outils sont utilisés par un certain nombre d'avocats pour repérer les magistrats les plus coulants pour optimiser les chances de succès dans les procès. Ou bien, par ailleurs, pour couler telle et telle personne en le faisant passer pour quelqu'un de trop gentil. Bon, j'espère à titre personnel que ce genre de système n'arrivera pas à l'université, car on pourrait mettre en évidence peut-être une tendance à ne pas mettre des mauvaises cotes aux étudiants, mais et à dire que je ne suis pas peut-être un très bon professeur. Vous voyez, la transparence est bonne, mais un certain voile d'ignorance peut-être permet de respecter une diversité qui pourrait être intéressante. Alors, dans la mesure où on prend en compte cette prudence, il faut prendre en compte aussi le fait que ce qui a changé, c'est l'image de l'humain. Une manière de penser de l'humain a changé au travers de ces technologies. Insensiblement, nous avons commencé à penser l'humain au travers de technologies ou ce que les technologies nous disent. Ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'une nouvelle technologie est apparue, on a pensé l'humain à partir de cette technologie. Hein. On pourrait dire du temps de Descartes, alors qu'on inventait les automates, on a pensé l'animal comme une machine. alors que la génétique moléculaire se développait, l'informatique était naissante, et on a pensé le programme, le génome comme un programme, ce qui n'est pas tout à fait. On pense le cerveau à partir d'un ordinateur, etc. Et donc la technologie a aussi amené une manière de penser l'humain autrement, et à penser l'humain sur le mode de la machine. Et c'est là qu'est le problème, parce que la question que l'on doit poser, c'est l'humain est-il vraiment une machine? Et l'enjeu fondamental du point de vue éthique, ce serait d'abord de rappeler qu'il y a une différence entre la réalité et la simulation, entre le modèle et la réalité. Or, insensiblement, on est en train de faire disparaître la barrière qui existe entre l'homme et la machine en se servant d'un vocabulaire qui efface la différence. On dira, dans le domaine militaire par exemple, que le drone a identifié la cible, et l'a traité. C'est une manière différente de dire un opérateur a repéré un objectif d'intérêt militaire et a enclenché un tir qui a tué une personne, par exemple. Mais dans les journaux, on dira un drone a tué et a produit des dégâts collatéraux. Un robot a décidé d'envoyer un colis à votre domicile. Mais les machines, comme les systèmes d'intelligence artificielle, ne décident rien. Ce sont des choses et ce ne sont pas des personnes. Insensiblement, cette distinction qui est quand même au cœur du droit classique, la distinction entre les choses et les personnes, est en train de s'estomper sans protestation. Et on dira, la machine a décidé. Un jour, dans un jury, on m'a dit, signez le protocole de délibération, parce que la machine a fait le travail. Je dis, mais pourquoi je dois encore être là? Ah ben, bon, il faut signer le protocole. Ça, c'est la bureaucratie, si vous voulez. Bureaucratie et technologie vont de pair, si vous voulez. On doit signer. Pourquoi? La machine a décidé. La machine a décidé. Mais la machine ne décide rien du tout. Il y a des gens qui ont pris la décision d'écrire des programmes qui vont faire que les machines vont se comporter de telle et telle, de telle façon. Mais soyez, si vous êtes un peu attentif au vocabulaire utilisé, eh bien, on va parler, par exemple, du fait qu'une voiture autonome a pris la décision de faire telle et telle chose. Mais une machine ne décide pas, et on est en train, en faisant cela, de couper les liens avec l'acteur humain responsable. Oui. Dernièrement, dans un colloque parlant des problèmes éthiques liés à la voiture autonome, c'est qu'un des problèmes, c'est des problèmes de dilemme. Face à des situations embarrassantes, on doit décider si on va prendre telle ou telle décision avec tel et tel risque dans chacune des branches de l'alternative. Et quelqu'un a dit, mais c'est très simple, finalement il faut, dans certaines situations, faire tirer au sort. Donc il y a un générateur aléatoire dans la machine, et la machine, face à un dilemme, va tirer au sort, et puis elle va s'engager dans telle et telle voie. Et moi, j'ai fait l'objection que, en fait, c'est quand même un peu embarrassant de tirer au sort, alors que finalement, l'action va induire des victimes. Et quelqu'un m'a dit, mais vous aussi, prenant une décision rapide, c'est un peu comme si vous balanciez et vous prenez une décision au hasard. Mais la grande différence, c'est que même sous le stress, que ce soit le stress du combat, le stress de la conduite, le stress de la décision, d'une décision importante, face à cela, on va peut-être hésiter, mais on va s'engager et on va prendre une responsabilité. Enfin, on peut se tromper, on peut très bien être dans le flou, oui, mais dans le contexte précis, on prend une responsabilité et on l'assume. Mais une machine ne peut jamais assumer une responsabilité. La machine n'est pas responsable parce qu'elle ne pourra jamais répondre. Oui. Et face à des victimes de dommages, dire simplement que vous serez indemnisé par un fonds d'assurance, oui, parce qu'on est dans le cadre d'une fiction de personne morale, et voilà, et ça résout le problème. Non, la victime est en droit de demander une réponse et de savoir qu'est-ce qui a fait qu'elle a été victime? Oui. Aujourd'hui, la loi d'ailleurs, si vous perdez votre emploi et que la perte d'emploi est liée au fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle, vous avez le droit de demander une transparence sur le processus. Maintenant, le problème, c'est que dans les systèmes d'intelligence artificielle, on n'a pas toujours accès à la manière dont ces systèmes fonctionnent. Vous savez que dans les réseaux neuronaux, par exemple, il y a des difficultés énormes pour savoir comment les systèmes eux-mêmes ont produit la décision. Donc, un des gros problèmes, c'est la transparence des algorithmes. Donc, le problème, un des problèmes éthiques centraux, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est l'effacement de la distinction entre l'homme et la machine, effacement qui est, disons, lié à une fascination que l'homme a pour des performances de la machine. Or, il faut insister sur ce fait que jamais une simulation n'est identique à la réalité. La représentation de quelque chose n'est pas ce quelque chose. C'est que, d'un fait, on pourrait dire épistémologiquement assez évident, mais on l'oublie aujourd'hui. On fait par exemple comme si on remplaçait progressivement des pièces de votre organisme, des organes, etc., par des organes synthétiques, et puis des neurones par des neurones synthétiques. Petit à petit, on aurait encore une personne humaine identique à la personne que vous avez devant vous. Mais on oublie qu'on aura remplacé une personne par de plus en plus une simulation de la personne. Mais qui dit simulation ne dit pas réalité. Même si une machine passe ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire je pose des questions à une machine sans savoir si c'est une machine ou un homme, etc. Mais même si je ne parvenais pas à mettre tout à fait en évidence le fait que ce soit une machine ou un homme, il n'en resterait pas moins que la représentation ou la simulation de l'homme ne serait pas l'homme lui-même. Et je voudrais rappeler ici une sorte de mise en garde. Hein. Nous avons à utiliser les robots, mais nous avons aussi à nous rappeler que les simulations numériques ne peuvent pas entièrement remplacer l'homme. Et je citerai le fameux mot de Bernanos en 1947 dans La France contre les robots, à une période où la cybernétique se développait. Bernanos a dit « Un monde dominé par la force est un monde abominable. » Mais le monde dominé par le nombre est ignoble. La force fait tôt ou tard surgir des révoltés, elle engendre l'esprit de révolte. Elle fait écho, elle fait des héros et des martyrs. La tyrannie abjecte du nombre est une infection lente qui n'a jamais provoqué de fièvre. Le nombre crée une société à son image, une société d'êtres non pas égaux, mais pareils, seulement reconnaissables à leur empreinte digitale. Il est fou de confier au nombre la garde de la liberté. Donc, en 1947, Bernanos avait cette conscience que on ne peut pas confier simplement aux méthodes numériques le soin de gérer la société. Et dans le même sens, et un an plus tard, le père Dubarle, dans un dialogue avec Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, disait dans Le Monde, c'est le 28 décembre 1948, « La machine à gouverner définirait alors l'État comme le meneur le plus avisé sur chaque plan particulier, optimiserait la politique, si vous voulez, et comme l'unique coordinateur suprême de toutes les décisions partielles. Privilège énorme qui, s'ils étaient scientifiquement acquis, permettrait à l'État d'acculer en toutes circonstances tout joueur au jeu de l'homme, autre que lui à ce dilemme, ou bien la ruine quasi immédiate, ou bien la coopération suivant le plan prévu par la machine. Et cela, rien qu'en jouant le jeu sans violence étrangère, les amateurs de meilleurs des mondes ont bien de quoi rêver. Dure leçon des froides mathématiques, disait le père Dubarle, qui pourtant était un grand logicien, mais qui éclaire de quelque manière l'aventure de notre siècle, hésitant entre une turbulence indéfinie des affaires humaines et le surgissement d'un prodigieux léviathan politique, celui de Hobbes, n'était du reste qu'une agréable plaisanterie. Nous risquons aujourd'hui une énorme cité mondiale où l'injustice primitive délibérée et consciente d'elle-même serait la seule condition possible d'un bonheur statistique des masses, monde se rendant pire que l'enfer à toute âme lucide. des observateurs de la cybernétique naissante avaient mis le doigt sur le problème. Nous ne pouvons pas nous remettre intégralement à la gestion de machines qui nous transforment et qui nous voient et qui nous transforment seulement à partir de paramètres numériques. Et ce n'est pas nouveau, puisque dans l'éthique à Nicomaque, quand Aristote envisage le jugement, la phronesis, le jugement de prudence, il dit explicitement que le jugement de prudence n'est pas une déduction mathématique, justement, parce qu'elle fait intervenir toute une série d'autres éléments que saint Thomas a bien décrit dans la seconde partie de la Somme, quand il donnait les dimensions de la prudentia, si vous voulez, parce qu'il fait intervenir le contexte des éléments qui sont liés à un discernement qui doit se faire dans un contexte où on ne sait pas nécessairement quelle loi générale doit être appliquée à telle situation particulière. Mais ce discernement, la machine en est incapable, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas programmer une machine avec des règles pour la faire sortir du système de règles pour tenir compte d'une situation dans laquelle plus aucune règle n'est applicable. Oui. Le magistrat, disait Ricoeur, hein, est celui qui humanise le droit. Hein. Pourquoi humanise-t-il le droit? Parce qu'à un certain moment, lui qui connaît si bien les règles, il sort du système des règles pour sauver l'esprit des règles. Si vous voulez. La prudence, ou le jugement de prudence, est un jugement qui, d'une certaine manière, doit, dans des cas, dans des contextes particuliers, arriver à prendre une décision là où plus aucune règle générale universelle pourrait vous donner la réponse. Mais une machine, pourrait-on me dire, pourrait être programmée pour transgresser ses propres règles. Et oui, il existe des algorithmes génétiques qui peuvent muter et qui peuvent se changer eux-mêmes en fonction des circonstances. Mais pourrait-on ultimement construire une machine qui conçoit la transgression des règles en vue de tenir compte de situations contingentes particulières? Non, parce que les situations contingentes n'étant pas universelles, elles ne peuvent pas donner lieu à des règles universelles. Or, ce qui fonctionne et ce qui est mathématisable, c'est ce qui, d'une certaine manière, présente des caractères d'universalité. Or, les situations humaines sont des situations qui nous engagent dans une contingence et dans une particularité. On ne peut pas programmer une machine à des comportements universels pour tenir compte des circonstances tout à fait particulières. Mais l'humain, lui, peut, d'une certaine manière, prendre la responsabilité d'inventer des situations nouvelles pour sauver l'humain. Oui. Dans un cas, les machines appliquent des règles, mais appliquer des règles, c'est très bien, mais les systèmes de règles peuvent aussi conduire à des aberrations du genre de celle que je décrivais tout à l'heure. Non, monsieur, vous devez rentrer dans le système, sinon nous ne prenons pas en compte votre CV. Oui, mais c'est vous qui allez lire mon CV, donc vous allez le faire sortir sur votre imprimante. Oui, mais la procédure, la règle prévoit que ce n'est pas comme ça. Oui, mais vous devez tenir compte, parce que moi j'ai fait 100 km pour venir. Non, mais ça, ce n'est pas un problème. Vous entrez dans le système ou vous n'existez pas. Il y a une règle. Oui, mais quand la règle devient folle, l'humain transgresse le système de règles pour en sauver l'esprit. Et ça, une machine ne peut pas le faire. Parce qu'une machine applique des règles, mais elle ne comprend pas l'esprit des règles elles-mêmes. On pourrait dire, oui, mais la machine travaille bien à partir de premiers principes, d'axiomes, de règles, etc. Oui, mais la machine pourrait-elle justifier les points de départ qui ont fait de l'écriture du programme? En fait, non. La machine applique des règles, et des règles de transgression des règles, mais elle ne pourrait pas, d'une certaine manière, justifier le choix de ces règles qui la font fonctionner. Et on pourrait imaginer ici un nouveau type de test de Turing où on poserait à la question, vous fonctionnez sur des règles de transgression des règles, des règles de transgression des transgressions des règles, c'est très bien, mais donnez-moi la justification première de la construction de ce système de règles. Mais la machine serait d'une certaine manière incapable de la donner, puisque ce n'est pas elle qui les a créées. Il y a très longtemps, enfin, peut-être pas si longtemps que ça, puisque des personnes l'ont probablement connu, dans mon université, un de mes prédécesseurs, le père Isaïe, avait écrit un petit livre, aussi petit que les premiers de la collection Que penser, sur les robots justement. La couverture, si j'avais fait un PowerPoint, je vous l'aurais montré, parce qu'on y voit un robot digne du magicien d'Oz, avec une poitrine métallique et une espèce d'entonnoir sur la tête, danser avec une dame, typiquement des années 40, et le père Isaïe fait une réflexion qui est tout à fait intéressante, parce que là où il voit la différence entre le robot et l'homme, c'est justement dans la justification des premiers principes. C'est-à-dire que la machine applique des règles, mais qu'est-ce qui permet de justifier le choix des axiomes, le choix des premiers principes, le choix des règles? Et si vous demandez ça à une machine, la machine risque d'être emmenée dans quelque chose qu'elle ne peut pas justifier. Aujourd'hui, on oublie que les machines travaillent sur des règles, mais les règles n'ont pas été inventées par des règles. Et c'est justement ça qui fait la créativité de l'humain. Verrait-on un mathématicien remplacé par une machine à démontrer des théorèmes, ou un musicien remplacé par une machine à faire de la musique synthétique, ou un peintre, etc. Bon, alors vous pourriez me dire, oui, mais il y a des œuvres maintenant qui se vendent et qui ont été faites par des machines. Mais la différence, c'est que les machines ont été programmées pour apprendre à, on pourrait dire, à ingurgiter des images de grands maîtres. Mais qui a eu l'idée de faire des machines qui ingurgitent ces images pour faire de la production artistique de ce type-là? Bien sûr, un humain. Mais c'est l'humain qui garde ce caractère premier, si vous voulez. Donc il nous faut sortir de cette espèce de fascination qui bifferait la différence entre l'homme et la machine, qui viderait l'homme de sa responsabilité, alors que la machine ne peut jamais répondre, il ne peut pas être responsable, qui viderait les décisions de tout contenu, politique ou économique, puisqu'aujourd'hui on fait des transactions boursières, 100 000 transactions boursières ou 1 million de transactions boursières à la seconde, quel est le contenu économique de telle transaction? Déléguer à des machines, c'est vider de leur sens l'action économique, si vous voulez. Bon. Mais pourquoi devrait-on faire ça? Pourquoi devrait-on dire nécessairement que nous devons déléguer cela à des machines? Au lieu d'entrer dans une relation de partage d'autorité entre l'homme et la machine, et conserver la machine quand elle peut aider l'homme, servir sa dignité, renforcer sa responsabilité, et permettre la traçabilité des actions, etc. Pourquoi devrait-on faire autre chose que cela? Il faut peut-être que les concepteurs de machines prennent un certain nombre de responsabilités et admettent que les machines sont des choses, qu'il faut les utiliser, mais qu'il est bon de les contrôler. Et c'est un peu, et je terminerai par là, c'est un peu, d'une certaine manière, ce chemin que nous dresse le pape François aujourd'hui dans différents textes et différentes interventions qui sont faites lors de congrès sur l'intelligence artificielle et la robotique, qui se multiplient d'ailleurs à Rome ces derniers temps. Le pape François, dans un message à l'Académie pontificale pour la vie, message Humana Communitas, le pape disait « Les nombreuses et extraordinaires ressources mises à la disposition de la créature humaine par la recherche scientifique et technologique, et qui sont bonnes d'une certaine manière, risquent d'obscurcir la joie du partage fraternel, ainsi que la beauté des entreprises communes, alors que c'est grâce à leur service, qu'elles obtiennent en réalité leur authentique signification. » Et donc, peut-être pourrait-on voir comme outil de discernement pour l'usage des nouvelles technologies aujourd'hui, le fait de réintroduire à certains moments de l'humain, du cœur humain, de l'intelligence humaine, de l'action humaine, pour éviter de voir progressivement la technologie nous mener par le bout du nez, si vous voulez. Nous avons quelquefois à ralentir parce que la lenteur est gage de notre sécurité. Quand on sait qu'il faut une demi-minute pour arrêter un robot financier qui fait 1 million de transactions boursières à la seconde, et si vous regardez le genre de perte financière que ça peut représenter sur une minute, 100 000 transactions avec $20 l'action, c'est une perte qui est pas négligeable. L'acteur lent est un acteur qui peut réintroduire de la sécurité. On sait aujourd'hui que dans les années 80, notre sécurité avait été hautement menacée parce que le système de défense antiaérienne soviétique avait identifié 5 missiles américains qui étaient à destination de Moscou. le colonel Petrov, qui est un héros oublié, si vous voulez, a vu sur son système informatique qu'il y avait une menace et tous les paramètres de l'ordinateur lui donnaient le droit de la riposte. Et il a pris quelques secondes peut-être de réflexion, il l'a expliqué, et il a fait une petite réflexion en disant « Une attaque nucléaire doit être une attaque massive. Si elle n'est pas massive, la riposte pourra se faire très rapidement et alors les États-Unis seront perdants. Donc il ne doit pas s'agir d'une attaque massive et je ne veux pas prendre la responsabilité de déclencher un conflit nucléaire. » Il n'a donc pas obéi aux ordres de la machine et quelques temps après, on s'est rendu compte que le système de reconnaissance de forme, hein, de reconnaissance de missiles, avait pris, si vous voulez, avait identifié comme missile, comme chaleur dégagée par le réacteur du missile, simplement le reflet du soleil sur le nuage, dans une configuration particulière. Et donc, la lenteur a été ici le gage de la sécurité. Remettre de l'humain, se servir des machines, mais remettre de l'humain au cœur des technologies, c'est à ça que nous sommes invités. Et d'une certaine manière, le vœu que je pourrais faire, le souhait que je pourrais avoir, c'est que les développeurs de ces nouvelles technologies n'oublient pas ces médiations lentes, ces face-à-face humains, qui à un certain moment permettent justement de sauver la technologie de la clôture de son enfermement. Donc la technologie est un système performant, mais c'est un système clos. C'est un système qui est prisonnier de la cohérence de ses procédures. L'humain est celui qui, à tout moment, brise la clôture des cohérences pour introduire quelque chose qui va éviter la cohérence de devenir folle. Quand le pape demande de considérer le temps plus que l'espace, de reconsidérer finalement des médiations lentes, quand il demande une éthique de la fraternité et du bien commun, il ne demande pas autre chose que réintroduire l'humain en chair et en os dans un monde de technologie, mais sans y renoncer. Et on pourrait dire, le pari pour ceux qui développent les technologies est le suivant, une technologie de pointe ne sera possible dans l'avenir que si elle reste cohérente avec l'être humain, parce qu'à partir du moment où l'humain est évacué de la technologie, alors d'une certaine manière il perd complètement son sens, sa finalité, et donc le défi sera de développer des technologies de plus en plus en faisant le pari que en introduisant l'humain dans ce partage d'autorité, la technologie sera d'autant plus performante. Indice de cela, oui, les guichets de gare disparaissent, mais curieusement, on a réintroduit des stewards qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'on remarque que des gens ne trouvent pas la bonne icône sur la machine, parce que des gens, parce qu'ils ont une maladie de Parkinson, ne peuvent pas éventuellement interagir correctement avec l'écran, parce que des problèmes complexes d'abonnement familiaux font que en deux minutes on ne peut pas trouver la solution sur le computer et qu'il y a une file derrière qui fait augmenter le stress de la maman, on réintroduit des acteurs humains dans un monde qui était censé les remplacer. Indice minime, mais qui signale d'une certaine manière que là où la technologie va se développer de façon importante, on ne pourra probablement pas enlever des êtres humains en chair et en os, en esprit, mais aussi, surtout, en cœur. Je vous remercie.